Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Eh bien, bonjour, je suis Taïrok, vous êtes sur l'émission Source de Radio Campus 92.1. Et avec moi, la chaleur, mais pas que.
Non.
Les chaleurs.
Oui, Frédéric est en train de suer aussi.
Tierce, pas encore fondu.
J'ai les avant-bras qui collent au bureau.
Et bonjour, moi je m'appelle Ilia et ça va, comme j'ai fait du vélo, j'avais très très chaud et là du coup c'est cool.
Voilà, donc si vous entendez un petit cloque par derrière, ne vous inquiétez pas, c'est le ventilateur qu'on a quand même mis dans le studio de Radio Campus.
Ah, c'est pas ta jambe de bois?
Non, c'est pas la jambe de bois, pardon encore. Mais on y pense, on attend qu'elle rafraîchisse un petit peu et ce sera parfait. Mais Ilia, bonjour, bonsoir, c'est très ravi de t'avoir du vendredi au samedi, il n'y a qu'un pas.
Oui, tout à fait, merci. Oui, je serai là demain avec mon acolyte Clément pour filer une dose de reggae, de gros reggae. On aura même Mike Molayon, qui est un artiste du Mali, qui habite à Bruxelles, qui va venir faire des petits lives dans le Roots Report de demain.
Voilà, donc on est toujours dans le joke intra-intercampus de Crossover Emissions, et c'est Roots Report qui s'invite, que nous invitons à Source. On pourra peut-être bien s'inviter aussi à Roots Report un de ces prochains samedis.
Ah ouais.
C'est étant donné le sujet du jour, qui ne sera pas uniquement question de clavier, et d'ordi, mais de libre, certes, oui, tout de même, parce que il y a une grande campagne qui est en train de se mettre en place, là, le Support Don't Punish.
Oui, qui est une campagne internationale qui a lieu le 26 juin, c'est une journée mondiale, un peu, pour essayer de changer la politique en matière de drogue, et donc de ne plus punir les usagers de drogue, mais plutôt mettre d'autres sortes de politiques en place. Voilà. Donc c'est un mouvement international, et chaque pays le fait un peu à sa sauce. Et donc, c'est la SBL dans laquelle je travaille qui organise Support Don't Punish pour Bruxelles.
Voilà, donc dans la vraie vie, quand tu n'es
mais
pas...
Quand je ne passe pas du reggae, que ce soit sur les ondes de campus ou ailleurs, j'ai un vrai travail.
Et cette ASBL, on peut la citer?
Oui, bien sûr, ça s'appelle Modus Vivendi. Mm-hmm. Et donc c'est une ASBL qui fait de la réduction des risques liés à l'usage de drogue dans plein de milieux différents. Parce que notre principe d'action, c'est d'intervenir dans les milieux de vie des usagers. Donc on a par exemple un projet à l'ULB qui s'appelle Samsoul, qui fait de la réduction des risques liés à la consommation d'alcool en milieu étudiant, parce qu'apparemment les étudiants consomment de l'alcool et même en grosse quantité.
C'est étonnant.
C'est pas de la drogue, ça, l'alcool.
C'est pas parce que c'est légal que c'est pas de la drogue.
Bon. Mais il me semblait qu'on en fournissait dès la petite cantine, pour certains, la pied de bœuf, très très tôt.
Oh, oui, mais tu sais, l'héroïne a été inventée par Bayer. Hein, donc, c'était le premier médicament héroïque qui permettait de ne plus être accro à la cocaïne et à la morphine, d'où son nom. Et grâce aux lobbies médicaux, Bayer a réussi à la laisser légale jusqu'en 1911 ou 12.
L'héroïne était un médicament contre la morphine et la cocaïne, qui eux-mêmes étaient des substances vendues tout à fait licitement.
Ils étaient vendues légalement à cette époque-là, puisque en fait...
On n'a pas vécu à la bonne époque. Hein.
Au moment de la révolution industrielle, on arrive enfin à synthétiser certaines plantes, et on se rend compte, par exemple, avec la guerre de sécession ou les guerres franco-prusses, que quand on ampute des gens, ils ont mal. Mais que quand on synthétise l'opium et qu'on en fait de la morphine et qu'on leur donne de la morphine, ben, ils ont plus mal quand on leur coupe les membres.
Allez, je vous coupe l'autre, parce que de toute façon, aujourd'hui, vous ne sentez rien, hein, Jean-Jacques.
Et donc, on se rend compte que si on leur en donne un peu tous les jours, ben, ils ont pas mal jusqu'à ce que ça guérisse. Sauf que quand ils sont guéris et qu'on arrête de leur donner de la morphine, ils ont mal parce qu'ils sont en manque de morphine. Et donc, c'est là que Bayer invente ce médicament héroïque.
The heroin.
Et c'était vraiment son médicament héroïque, c'était son nom de vente.
C'est pour ça que ça s'appelle l'héroïne, c'est parce que
C'était
le médicament pour les héros.
Ou en tout cas, qui était tellement héroïque qu'il arrivait à vaincre ce danger de la fée grise. Le nom qu'on donnait, il y avait la fée verte pour l'absinthe et la fée grise pour la morphine.
Ah, voilà. Tout ça en vente libre à l'époque.
Oui, tout à fait.
Bien, bien. Ben, voilà, merci Léa pour cette belle jolie introduction historico-pratico-comique. Nous avons d'autres intervenants en ligne qui sont Brice et Xavier, à qui on peut faire coucou. Éventuellement, non, pas tout de suite.
Non, pas tout de suite. Le studio a oublié d'en donner des informations à la régie, du coup la régie n'a pas encore pu se préparer.
D'accord, pas de souci.
Mais ce sera bientôt.
Voilà, tout à fait. Je leur fais coucou de loin et on va mettre ça en place donc sur framato.org/source, qui est notre petit salon du moment. Donc voilà, le modus vivendi a un arsenal technique. Et...
Alors oui, on a, comme je disais, plein de projets différents, dans plein de milieux de vie différents, donc que ce soit les étudiants, que ce soit en prison, que ce soit dans le milieu festif, que ce soit en rue, que ce soit des comptoirs d'échange, et on a vraiment plein de choses. Et là, évidemment, Support Don't Punish, c'est ce grand truc international auquel on ne pouvait pas ne pas participer. Ça fait quelques années qu'on l'organise. Alors d'habitude, on fait une grosse fête au Parc Royal avec plusieurs concerts, des DJ sets, plein de stands, plein d'associations qui se joignent à nous. Mais il paraît qu'il y a eu une pandémie mondiale. Et donc, c'était un peu plus compliqué de faire un gros truc au Parc Royal. Donc, on fait des journées portes ouvertes dans toutes les associations partenaires. Un tour à vélo pour ceux qui veulent poursuivre, partir de Modus et aller faire 2-3 assos. Il y a du géocaching aussi qui a été organisé. Donc, avec votre téléphone, vous pouvez répondre à des questions sur les idées reçues sur la drogue et trouver des indices. À Modus Siesta, qui est donc le lieu où moi je bosse, qui est un lieu d'accueil où on fait du testing, on aura des démonstrations de testing. Donc le testing, c'est de l'analyse de produits psychotropes. Donc on a un spectromètre infrarouge. Les gens peuvent donner leurs produits. Plutôt que ce qui est chimique, on n'arrive pas à tester les champignons ou le cannabis, parce qu'il y a trop de molécules. En fait, il y a trop de molécules différentes et le spectromètre s'y perd.
Oui.
Tandis que dans une poudre ou dans une pilule, c'est plus facile. Et donc, on peut voir ce qu'il y a dans la pilule ou dans la poudre et donner aux gens les conseils de réduction qui vont avec leurs produits. Donc et ça, ce sera samedi.
Qu'est-ce que le spectromètre peut...
C'est une grosse machine.
De tout, on a 30 000 références, donc...
Ça va de 30 000 références.
On a acheté une base de données de 30 000 références de spectre.
30 000 molécules psychotropes, psychoactives
Il y a les molécules psychoactives. Et
je vois quelqu'un qui est intéressé là. 30 000.
Il y a les molécules psychoactives et il y a les produits de coupe qu'on trouve habituellement dedans. Donc il y a aussi tout ce qui est codéine, aspirine.
Plus tous les trucs dégueulasses aussi, non ? Ça, du coup, c'est dans les références ou...
Oui, mais en fait, y a, dans les produits de coupe, c'est rarement... Enfin, tu vois, il y a cette légende, les pilules ou la coke, c'est coupé à la mort au rat. Mais en fait, c'est compliqué de couper à la... Enfin, les dealers, leur but, c'est de faire du cash. Et pour faire du cash, il faut que les gens reviennent. Donc, plutôt que de...
C'est des petits commerces.
Voilà.
C'est le même principe.
Plutôt que couper ta cocaïne avec de la mort au rat... Ils vont la couper à la caféine, parce que la caféine, ben, ça coûte, 50 euros le kilo.
Et puis, c'est quand même bienveillant.
C'est des effets qui sont proches. Et donc, oui. Les gens sont réveillés, ils sont un peu énervés, ils ont l'impression qu'il y a un petit peu de coke dedans, vraiment, et de la caféine, et donc,
Mais bon, il y a quand même des... Enfin, c'est pas non plus une légende qu'il y a des drogues vraiment dégueulasses qui circulent dans certains endroits. Ou pas.
Alors, il y a des trucs. Tu fais référence à quel. Tu penses
j'ai
à.
Pas, non, j'ai à, pas d'idée précise, mais je pensais
y a
à
plein
des.
De légendes du, construites.
Du, j'avais lu, par exemple, qu'à Paris, il y avait du crack.
Bruxelles aussi, maintenant, il y a du crack, mais le crack, c'est de la cocaïne basée.
Mm-hmm.
Donc, on transforme en la mélangeant à de l'ammoniac ou à du bicarbonate de soude. Et donc, c'est. Elle n'est pas plus ou moins coupée que la coke. Okay. Elle est juste transformée et tu la transformes avec les produits de coupe, quoi. Et tu la fumes à la place de la sniffer, ou de l'injecter, ou de la plugger aussi.
Nous noterons au passage de bicarbonate, le petit ingrédient magique que toutes les grands-mères recommandent pour aussi déverrouiller vos ordinateurs ou assécher vos pois chiches. Ça nous, marche avec tout, le bicarbonate.
C'est clair. En fait, les gens font principalement l'ammoniac et c'est nous qui disons aux gens, mais plutôt que fumer de l'ammoniac, fume du bica, c'est un peu moins nocif pour tes poumons. Parce que c'est ça, le principe de la réduction des risques, c'est pas de dire aux gens la drogue c'est pas bien, faut pas le faire. C'est si tu le fais, fais-le de telle manière.
En fait, c'est de bien faire la fête.
Oui, en tout cas, de pas choper de maladie, de pas mourir, de pas faire d'overdose mortelle, enfin que ce soit le plus agréable possible et que tu mettes le moins ta santé en danger.
Et cette journée mondiale là, ça c'est un projet qui vient de. Enfin, je veux dire, il y a des continents, par exemple, qui sont plus à cheval sur la drogue. Ça vient d'où ?
Je pense que c'est une initiative qui vient de l'ONU à la base, mais il y a même des pays où c'est très très répressif, où justement ils font quand même support d'une puniche, où ils vont dire oui, ce serait peut-être bien d'arrêter de pendre les drogués.
Oui, comme par exemple Duterte aux Philippines, je crois qui flingue tous les
donc là,
consommateurs.
Là, ils font pas un truc où ils peuvent venir faire du testing gratuitement pour journée porte ouverte, mais ils font s'il vous plaît, arrêtez juste de les tuer. Si vous pouviez peut-être juste les enfermer, ce serait déjà pas mal. Donc oui, chacun y va comme il peut dans le cadre de liberté qu'il a, qui n'est pas le même d'un pays à l'autre, évidemment.
Oui, oui. Bah oui, d'autant plus que là-bas, selon la label de qualité producteur ou consommateur, là-bas où ça se passe, on est quand même déjà dans les zones géographiques mondiales où ça sort de terre. Puis après, ça sortira de laboratoire, puis ça sortira de petit sachet en papier, puis ça rentrera par où ça peut.
Ça peut rentrer par plein d'endroits.
Est-ce qu'il y a une drogue à base de betterave ?
Le sucre ?
Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Si tu te déplairais pour du gel.
Et qui va super bien. Et donc là maintenant, l'idée de cette grande journée mondiale support Don Punish, il y a des antennes qui existe au niveau, comme disait Nico il y a deux secondes, au niveau national.
Oui, dans chaque pays, il y a sur le site international, donc tu as supportdonpunish.org, je crois, où tu peux, même toi en tant qu'individu, poster ta photo avec un petit panneau Support Don't Punish. Je sais que nos collègues de Spiritech, donc, qui sont c'est un CARUD, donc un comptoir d'échange de seringues avec qui on intervient en fait, eux, ils avaient fait un musée de la drogue, le dernier Support Don't Punish, et donc les gens pouvaient venir visiter le musée de la drogue où ils expliquaient l'historique et les différentes substances, tout ça. Donc chacun le vit à sa manière et le fait comme il peut.
Il y a des endroits dans le monde où on va dire c'est un paradis. C'est-à-dire qu'il y a une consommation et un respect de la consommation.
Alors il y a le Portugal qui a quand même une politique assez intéressante puisque au Portugal la drogue, tous les produits sont dépénalisés. Donc dépénaliser ne veut pas dire légaliser, que ce soit bien clair. Dépénaliser, ça veut dire que ça sort du champ juridique. Mais ça veut dire qu'un consommateur au Portugal, qui se fasse arrêter avec du cannabis, de la coke ou de l'héro, ne va plus avoir affaire à la justice, mais à la santé publique. Et donc on va lui dire tiens, est-ce que ce serait pas bien de peut-être penser à réfléchir à votre conso, si c'est la première fois. Si c'est la deuxième fois, ce serait peut-être bien d'aller faire une psychothérapie, et troisième fois, maintenant c'est psychothérapie, sinon on va être fâché.
Ben oui, c'est ça, il y avait le cas aussi avec l'Espagne à l'époque, où quelqu'un accro aux substances était considéré comme un malade, plutôt que comme un criminel, et donc c'était...
C'est une approche possible. Après, t'as d'autres approches, tout le monde parle, on parle beaucoup du Colorado, parce que c'est... ils ont légalisé le cannabis récréatif en premier et que pour la première fois, ils ont dû reverser des impôts à leur population, tellement ils ont fait de cash. Mais ça reste un système à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a très peu de contrôle, il y a une augmentation des cas d'overdose de cannabis, même si elles ne sont pas mortelles, il y a quand même pas mal de gens qui se retrouvent à bouffer des spécifiques sans avoir jamais rien pris de leur vie et qui terminent vraiment pas bien aux urgences. Il y a de la compétition.
Nous déconseillons donc l'essai du space cake sans avoir fumé un petit joint avant.
Comme toujours,
c'est tout de suite un peu plus intense.
On commence par des petites quantités, on attend de voir ce qui se passe. Mais donc le Colorado est parfois vendu comme un modèle incroyable, mais il a ce truc d'ultra-capitalisme qui est bien pourri aussi en fait. Et là, tu as Budweiser, entre autres, et Philip Morris, qui voient qu'ils sont en train de perdre des parts de marché et qui ont les moyens de pouvoir investir demain $1 milliard dans le cannabis et de faire des. Donc les petits producteurs et les gens qui étaient dans un marché parallèle du cannabis avant et depuis que c'est légal, ont perdu ces parts de marché et ont perdu cette mainmise sur ces produits.
Ouais. Ou alors il faut vraiment se mettre bien au milieu entre les deux. Je pense peut-être retrouver l'article, mais c'est Microsoft, pour ne pas le citer, qui a mis au point un super logiciel qui permet le traçage du producteur au détaillant final. Et donc Microsoft a... Voilà. Tant pis pour Budweiser, tant pis pour Philip Morris. Microsoft a trouvé un petit plan intermédiaire là-dedans.
Mais c'est un peu la même bande, hein.
Oui, c'est tous des... Voilà. Mais c'est parce que je me dis qu'à un moment donné, quand on dépénalise, enfin, on peut légaliser aussi, c'est sortir déjà la substance du marché noir.
Oui.
D'une certaine pègre, ou pas ?
Justement pas. Ça, c'est la différence entre la légalisation et la dépénalisation. Quand c'est dépénalisé, le marché reste aux mains des mafias. Puisque l'État s'en dédouane. Elle dit que c'est plus l'affaire de la justice, mais c'est pas encore mon business. À partir du moment où c'est légal, on instaure une loi. L'alcool, c'est légal, donc si on a moins de 16 ans, on n'a pas le droit de boire du tout. À partir de 16 ans, on peut boire les boissons fermentées, et après 18, les boissons distillées. Oui, mais comme toujours, les lois sont aussi faites pour être contournées. Mais
Parce qu'on va bientôt parler de la loi, la fameuse, la vieille loi
1921.
On va y arriver. Ouais.
C'est les ASBL, ça, non?
1901.
C'est en France, ça.
Eh bien, avant d'attaquer ce gros sujet, je vous propose une petite pause musicale. Comme ça, moi, je peux aussi m'occuper que tout le monde est bien arrivé et qu'on entendra tout le monde. Et vous, ça vous permettra aussi de vous altérer. Entre autres.
Vous altérez ou
désaltérez.
Les deux sont possibles.
Eh bien, à tout de suite.
Jungle bring the kafra to the area. One hand in the air. gars qui m'ite là de let me hear ya. You say you want that thing minus me, say want that thing plus. Two shots in the air, pop, pop, watch your ass. If I pull the trigger two, we only gonna get war. So find a different way, we gonna sit that place. So me say, oh, 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 oh. We only wanna make hopla, we don't wanna go war. We don't wanna go war. Only make hapla, we don't wanna go war. So only make hapla, we don't wanna go.
Yo,
yo, yo, yo, yo.
Radio Campus, une radio qui ne mâche pas ses mots.
From the number one station, this is a story about love, a love story. Music is love, it loves music.
Every day.
Now
is Al Capone and Alexei.
We're losing it together. Enchanting wherever on the sea.
Do you hear that?
I know I wanna tell you.
Sing the song, you could never be wrong.
A fire burning in you make me wanna sing.
Sing the song, brother. Very last drop, you know. Don't leave no stones unturned. The more you live is the more you learn. Live the life you love. In love the life you live. Cause music is mine to give. Live and let others live. And your place may be locked up upon this land. Yeah, yeah, yeah. Music is sweet for your dancing feet. So get up and move your feet. Let love shine bright along the way. Let love shine in your heart each and every day.
Et re-bien le bonjour, vous êtes dans l'émission Source de Radio Campus en 92.1 dans les ondes de Bruxelles, avec moi pas mal de gens qui sont apparus entre temps. Donc toujours à la table des présents, nous avons Fredux.
Oui, certes.
Thiers.
Tout à fait.
India.
Oui, c'est moi.
Et Nico.
Yes.
Et à distance, il me semble que nous avons un Brice.
Bonsoir.
Nous avons...
Salut.
Un Xavier, si je lis bien d'ici.
Exactement, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Et ça marche en plus.
Ça c'est la magie de Terry Rock, hein, dans Régis d'Espire. Bonjour Brice et Xavier, on a échangé quelques mails, mais par l'intermédiaire donc de notre cher chroniqueur Thiers, qui connaît plein de monde.
Chroniqueur, oui, t'as bien entendu.
Non, ça fait très longtemps. Le librisme est une vie monastique, sachez-le.
Et oui, c'est parce que nous avons... Il y a un super clip qu'on doit passer. Donc, Brice et Xavier, vous présentez l'un après l'autre ou comment fait-on pour savoir qui tire son plan dans ce cas-là?
Je vais éventuellement commencer. Donc, moi, c'est Xavier. J'ai travaillé pour l'antenne Trek to Plant en Versoise, où j'ai créé la section bruxelloise, qui est devenue quelques années plus tard une ASBL indépendante. Et voilà, malheureusement, suite au déboire judiciaire que nous avons eu, on a dû clôturer les deux sections.
Hein. Oh merde.
Déboire judiciaire, moi, je suis pas au courant. Moi, des déboires judiciaires. C'est quoi les déboires judiciaires?
Mais je peux peut-être, pour mettre tout ça en contexte, expliquer brièvement l'histoire du club.
Ah bah oui.
Oui.
Donc en gros, l'idée des Cannabis Social Club, elle est née dans des régions un peu rebelles, en Catalogne et au Pays Basque, où les gens sont quand même bien au courant des questions d'autonomie et d'autogestion. Et alors, on a eu chez nous ce qui s'appelle l'arrêté Royal Long Collings en 2003, si je me souviens bien.
5.
Et donc, 2005, voilà, exactement. Et donc, cet arrêté disait qu'on pouvait cultiver à des fins personnelles une plante de cannabis femelle ou avoir éventuellement en sa possession 5 grammes de cannabis sans risquer de poursuite judiciaire. Si jamais c'était constaté par la police, on avait simplement droit à un procès verbal simplifié, c'est-à-dire que l'agent de police prenait note qu'effectivement on possédait une plante ou 5 grammes de chanvre, mais il n'y avait pas confiscation, pas destruction. Donc assez vite, Joop Oomen, qui est un militant malheureusement maintenant décédé, a créé l'ASBL Trek to Plant pour jouer sur la loi et se regrouper en tant que consommateur de chanvre pour cultiver un plant par personne pour que chacun puisse subvenir à sa consommation en chanvre. Alors, pour que l'idée puisse vivre, pour essayer de pousser un maximum les choses dans notre sens, il y a deux actions qui ont été faites, qui étaient des actions symboliques, dans le jardin botanique d'Anvers. Et donc, la première a consisté à planter 5 graines avec 5 membres dans le jardin botanique en appelant la presse et en appelant la police. Et donc, s'en est suivi un premier jugement qui a été gagné en appel. Après ça, il y a eu une deuxième action, mais qui était de nouveau symbolique, où cette fois-ci, on a pris un plant mère de chanvre, de cannabis, et on a fait 5 boutures qu'on a mis en pot et qu'on a distribué à 5 membres. On a de nouveau appelé la presse, on a appelé également la police. Tout le monde a terminé au poste, s'en est suivi un procès qu'on a de nouveau gagné en appel. Et donc, après ces deux épisodes, on a arrêté les actes symboliques et on est passé dans du réel. Donc, on a commencé à cultiver du chanvre pour tous nos membres. On a été jusqu'à 300 membres. Donc, on distribuait maximum 1 gramme de chanvre par jour par personne pour rester dans une zone tout à fait raisonnée et raisonnable. Et ça a très très bien fonctionné jusqu'à ce qu'on ait notre gouvernement de droite, quand entre autres après Anvers, Bardewever est arrivé. Et eux, évidemment, ça les titillait fort qu'on puisse distribuer du chanvre dans leur commune, alors que jusqu'avant cette date, on avait toujours eu des contacts très cordiaux, aussi bien avec la police, qui recommandait parfois à certains utilisateurs et cultivateurs de nous rejoindre pour être dans la légalité. Et avec le bourgmestre d'Anvers, ça se passait très bien. Bon, malheureusement, les choses ont changé quand le nouveau gouvernement est arrivé, et il s'en est suivi un nouveau procès où là, malheureusement, nous avons perdu en appel également, et donc on a eu droit à de lourdes peines, de très très exigeantes, à écoper de 20 000 euros d'amende. Moi, à titre personnel, j'ai écopé de 7 000 euros d'amende et de 15 mois de prison avec sursis. Et donc, étant téméraire, mais ni suicidaire ni stupide, malheureusement, on a dû clôturer les sections. Et voilà l'histoire pour faire très court.
Mmh. Okay. J'allais dire 15 mois de sursis en prison, ça veut dire que tu fais de la prison ou que tu ne fais pas de prison ?
Non, ça veut dire que je ne fais pas de prison, mais que si je me mets à cultiver un pied de chanvre pour mon usage personnel et que c'est constaté par un agent de police, j'aurai droit à mes 18 mois de prison.
Hein. Ok, ok.
Mmh. Et donc, tu étais sous le coup de la loi de 1921 ?
Et on était du coup bien sous le coup de la loi de 1921. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que la loi de 1921, elle, on pourrait complètement sortir de son cadre. C'est marqué dans les petits paragraphes si on regarde tout ça sous l'angle de santé publique. Et alors, malheureusement, depuis 1921, on n'a pas vraiment eu ni une justice ni des politiciens très courageux qui ont voulu regarder l'aspect de l'usage des drogues sous le point de vue de la santé publique. Mmh. Parce que, ça a été plaidé par nos avocats. Il suffisait de dire « Ok, ce que vous faites, c'est de la santé publique ». On sortait par la grande porte, sans punition, sans peine et avec la possibilité de continuer. Mais pour ça, malheureusement, il faut des gens avec un peu de courage et c'est pas eux qu'on a croisés sur notre route.
Ce qui est rigolo, c'est que le contexte légal n'a pas changé, et c'est juste le bourgmestre qui a changé.
Plus tard, après, la loi de 2006 a été remodifiée, je ne sais plus quand exactement, en 2017, ou, enfin, il n'y a pas si longtemps, et on est repassé à une tolérance zéro, ce qui veut dire intolérance en fait, tolérance zéro, donc pas de rien. Donc si on se fait arrêter, on peut... C'est confisqué et la police dresse un PV simplifié selon, évidemment, la gueule du client. Parce que généralement, les drogues, peu importe où et pourquoi, elles servent principalement de moyens de pression sociale, quoi. Si j'ai une casquette, que je suis légèrement basané et que je fume un joint à Naissance, j'aurai plus de problèmes que si j'ai une tête de bobo et que je fume un joint sur un peu le parvis de Saint-Gilles.
Mais écoutez, tout le monde sait bien qu'il vaut mieux s'appeler Charles et habiter le barbe à bois long. Il y a quand même quelques avantages. Je ne faut pas négliger non plus.
La loi a rechangé. On ne peut plus avoir ce truc d'une plante femelle ou 5 grammes. Ce qui ne voulait rien dire non plus, parce que si tu as la main verte... Une plante femelle, tu fais bien plus que ça.
Donc, même plus de petits compromis à la belge.
Non. Ben c'est ça, les gouvernements de droite. Il n'y a plus trop de place pour des compromis.
Voilà, plus de compromis. Et alors, nous, dans notre jugement avec la SBL Trectuplante, il a été fait référence uniquement aux lois de 1921. Donc, tout l'imbroglio juridique, les 15 changements de loi qu'on a eu depuis 2005 n'ont jamais été mentionnés. On n'a pas été jugé sur un arrêté royal de 2017, 2018, 2019. On a bien été jugé en fonction de la loi de 1921.
Et c'est un procès, enfin bon, moi je connais pas bien ce milieu, ce domaine, mais c'est un procès qui avait eu un peu de retentissement médiatique ou...
Il y a eu du retentissement médiatique, effectivement, uniquement lors de la première instance et uniquement pour répéter les mots du procureur du roi qui nous accusait de trafic à très large échelle. Et donc ça s'est passé dans la presse. Notre défense n'a jamais eu droit de citation dans les médias de grand chemin, dirais-je. Mmh.
Donc à charge, quoi.
Exactement, totalement à charge.
Allez, c'est pourtant pas faute d'avoir tenté de solliciter, d'attirer un petit peu l'avis du grand public sur le cas de Trectuplant. C'est notamment dans ce cadre en fait que le court-métrage, le petit spot dont vous parliez, a été réalisé. En soutien et en essayant d'attirer des fonds et du soutien pour Trectuplant en procès. Voilà.
Ah, c'est ça alors. Donc, vous venez d'entendre Brice, copain collègue de Xavier chez Tire ton plan PLANT. L'objet de ce super petit clip qu'on va passer lors d'une prochaine petite pause désaltérante et rafraîchissante, c'était en vue de pouvoir faire une petite levée de fonds pour soutenir...
Alors, il y avait tout à fait le volet levée de fonds pour le soutien de Trectuplant, mais c'était aussi essayer d'en profiter pour présenter le modèle des clubs comme un moyen responsable de réguler un marché et qui considère les choses sous l'angle, justement, comme le disait Xavier, de la santé publique et non pas du profit. Parce que j'ai entendu tout à l'heure que vous citiez l'exemple du Colorado, l'exemple... C'est un exemple à suivre. Mais en tout cas, le modèle du club se met complètement en opposition avec cette vision-là de la régulation du marché. Et ce petit court-métrage, c'était l'occasion d'essayer de faire découvrir pour les gens qui s'intéressent pas forcément ou qui se sentent pas forcément concernés par la chose, de faire découvrir en fait qu'il est possible de s'organiser, qu'il est possible de faire autrement, que ça en fait ça existe. Enfin, ça existait. Malheureusement, ça, pour le moment, à ce jour, ça n'existe plus. De manière active, mais ça a existé pendant 13 ans, des citoyens qui s'organisent entre eux, qui font pousser de manière responsable du chanvre de qualité en circuit court, biologique, enfin voilà. Mm-hmm. Donc voilà, ce court-métrage était là pour faire découvrir ce modèle et pour essayer de, mais du coup, attirer du soutien aux plus vieux représentants de ce modèle, qui était très plein de fois, en tout cas en Belgique.
Ouais, et qui effectivement, sur le modèle des. L'agriculture collective, des beaux endroits comme ça. Combien étiez-vous avant quand le Cannabis Social Club tournait, fonctionnait?
Ça, je vais laisser Xavier répondre, mais il me semble que pendant l'âge d'or, on était, pour l'appeler comme ça, on était environ 300 membres.
300, ah oui, voilà. Vous vous proposez un choix multiple entre 8 et 10, entre 20 et 30. Mais ouais, ok, donc ça avait une fonction publique plutôt évidente.
Tout à fait. Donc on était bien à 300 membres sur la Belgique et on était une septantaine au niveau de Bruxelles à nous être réunis pour, je dirais, aussi pour défendre nos droits et pour avoir un accès à un chanvre de qualité.
Et c'était une culture pleine terre, plein air, où tout le monde y allait de ces superbes petites serres intérieures, ou un coin de cave, un coin de grenier. Comment partagez-vous vos expériences de...
On tirait notre plan, parce qu'on a toujours su que le cadre juridique n'était pas en notre faveur. Personne n'a fait passer de loi qui soutenait notre modèle. Et donc, on avait des petites plantations décentralisées. Certaines étaient en serre, d'autres en culture intérieure. Mais dans notre cahier de charge, il était bien précisé que la culture ne devait pas être exposé à la vue extérieure. Donc, ça restait toujours caché. Donc, soit au fond d'un grand jardin, soit effectivement dans un placard. Mm-hmm. Et pour la petite anecdote, à l'âge d'or, quand on a pu récolter le plus de chanvre, quand on a fait la une des médias après notre deuxième procès qu'on a gagné, où on a été rejoint par beaucoup de cultivateurs, on a eu l'occasion de faire quand même des récoltes conséquentes. Donc, on a pu faire tester nos produits pour connaître les taux de cannabinoïdes. Et le plant de chanvre le plus puissant qu'on ait fait pousser était à 22% de THC. C'était un plant cultivé en serre.
Waouh!
Ça peut aller jusqu'à combien de pourcents?
Question intéressante.
Sans tricher, on ne montera pas au-dessus de 22, 23, 24% grand maximum. Après, il y a des méthodes pour faire un peu plus, mais c'est en déshydratant la plante et en trichant.
Non, nous, on est vraiment plus le plus libre possible. Une plante peut pousser, plus elle ressemble au logiciel dont nous faisons la promotion dans cette émission depuis des années.
Voilà.
Au sein de cette
université libre. Aussi, autre petite anecdote, tire ton plan, mais dans ses principes, défendait forcément aussi le modèle du libre. On s'est toujours organisé avec l'informatique de manière 100% libre. Mm-hmm. Mais si on veut de manière naturelle concentrer le chanvre, on peut aller regarder ce qu'ils font depuis plus de 10 000 ans du côté de l'Himalaya, où ils ont ce qu'ils appellent le charas, un espèce de hashish, qui est 100% bio, 100% naturel, 100% respect de la plante, et qui lui peut monter jusqu'à 60-65% de substances actives.
Ah, je vois les yeux de Ilia qui brillent.
On est dans du produit très très puissant, à ne pas mettre dans un space cake et manger la moitié du gâteau.
Je me permets juste de souligner la petite dimension. Donc, ça fait 10 000 ans que cela se pratique dans d'autres régions du monde. Nous sommes à une époque loin avant le monothéisme, loin avant une dimension un peu autoritaire et patriarcale de notre société. Et donc, il y a 10 000 ans de ça, on apprenait déjà à faire... Comment dire, donner le meilleur de cette petite plante magique.
Ouais.
Jusqu'à il y a peu de temps, on ne savait pas vraiment tester les cannabinoïdes. Ou alors, ça coûtait très très cher. Maintenant que ces tests se sont vulgarisés, les historiens et les archéologues peuvent s'en emparer très facilement et pour un tout petit budget, faire tester ce qu'ils trouvent. Et on a découvert comme ça que les Celtes, en Europe, mettait du chanvre psychoactif, ce qu'on appelle le chanvre indien, mais qui était bien cultivé chez nous, en Europe, et qui mettait ça dans leurs boissons enivrantes. Et ça, on le sait depuis assez peu de temps, parce que la science ne permettait pas de le savoir avant.
Mais il n'existe pas de société sans drogue, hein, de tout temps, même en dehors des sociétés humaines. Je veux dire, il y a des animaux qui font en sorte que certains fruits macèrent et fermentent.
Et oui, les dauphins avec leurs petits copains poissons qui s'amusent à se lancer. Dès qu'il y a un cerveau et un système limbique...
Il y a un système de récompense possible et donc il y a moyen de se défoncer.
Voilà. On va remettre un cannabis.
Sinon, un petit point que moi je voulais aussi souligner, qu'on entend très souvent dans le discours actuel, il faut contrôler le chanvre, entre autres, parce qu'il est de plus en plus fort. Mais donc, quand on prend l'histoire du Charas, du hashish himalayen, on voit bien que ça fait des dizaines de milliers d'années qu'on a un produit très fort, très puissant. Si on regarde par exemple le hashish qui vient du Maroc, ceux qui ont eu la chance de naître un peu avant moi ont fumé la plupart, et qui consommaient du chanvre et du hashish, ont fumé des produits du Maroc, du Rif, qui étaient beaucoup plus puissants que ce qu'on a pour le moment. Donc effectivement, sur la plante, la graine de chanvre, il y a eu quelques sélections, certaines naturelles, d'autres en laboratoire. Mais croire que le chanvre est plus puissant de nos jours qu'avant est une erreur qu'on entend très très souvent.
En fait, moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a une évolution, en tout cas, qui va pousser pas mal de producteurs à aller dans des taux élevés de THC, donc le tétrahydracannabinol, qui est la partie qui rend pété, entre guillemets, qui rend high, mais qui développe aussi plutôt le côté un peu paranoïaque que peut amener ce genre de substance. Tandis que le CBD a un côté plus groundé, où on va avoir... Le cannabis va créer lui-même son antidote. Et à partir du moment où on pousse uniquement le THC sans laisser le CBD aller avec, on a des plantes plus fortes, mais avec un effet qui peuvent plus vriller vers la parano. Alors que si on augmente les deux substances de manière égale, ou qu'on met quand même un peu de THC en avant, mais qu'on laisse du CBD, on a un truc plus... plus équilibré, et plus équilibré dans les faits.
On va lancer un cours de chimie, là, ça va être splendide, ça m'intéresse aussi.
L'histoire du club, et nous, notre expérience qu'on a eue en distribution depuis plus de 10 ans, c'est que pour rentrer dans le club, il fallait déjà être consommateur de chanvre et être majeur. Et alors, moi, j'avais un entretien d'entrée, donc j'interrogeais le membre sur sa consommation pour voir déjà ce dont il avait besoin, analyser le contexte de sa consommation, le contexte économique, social de chaque membre. Et beaucoup de gens me disaient « Ah, mais moi, je veux du cannabis très, très fort, beaucoup de THC, etc. » Quand nous, on leur proposait différents plans, quand ils avaient tout d'un coup accès à différents produits, on voyait que naturellement, les membres se dirigent vers des plantes qui sont plus équilibrées. Donc, ils n'avaient pas du tout l'envie, comme ils me le disaient le premier jour, avant de connaître la variété de chanvre, d'avoir le plus puissant THC. Et pour le peu qu'on fasse pousser les plantes à l'extérieur, elles ont les autres taux de cannabinoïdes qui sont plus élevés. Donc, pour avoir un chanvre vraiment pur THC, il faut le faire pousser à l'intérieur. Et il faut sélectionner sa variété qui fait pur THC. Une plante qui a poussé à l'extérieur, qui a vu le soleil, n'aura jamais cette particularité-là. Alors, ce qui est très chouette de nos jours, c'est qu'on a maintenant accès facilement à des plants purs CBD. Il faut savoir que ces plants purs CBD ont toujours existé, mais ils étaient très difficiles à trouver, à se procurer jusqu'à il y a 5-10 ans.
Le CBD fait partie intégrante des différents alcaloïdes qui sont dans un plant de cannabis
à l'état naturel. C'est pour ça que le hashish marocain contient, lui, naturellement, jusqu'à 1% de CBD. Il a poussé au soleil. C'est pour ça aussi qu'il a cet effet beaucoup plus épouse et moins angoissant. Alors, il y a le CBD, pour donner un petit cours de chimie. Il y en a toute une série. Il y en a sans doute une autre série qu'on va encore découvrir. Mais il y a le CBD, le CBN, le THC, le THCV, et j'en oublie quelques-uns.
Cette plante est magistralement riche en elle-même. Enfin, je lisais l'article de Samantha Green, de son nom de gérante du premier magasin de CBD à Bruxelles, qui s'est guérie d'un cancer faramineux, de 33 ganglions entamés de métastases, et le CBD, là, aux yeux ébahis de son oncologue, elle en est sortie. Enfin, donc cette plante est apparemment médicalement d'une richesse incroyable, mais très difficile à breveter. Mieux vaut maintenir une espèce d'omerta et interdire classiquement, sinon les compagnies pharmaceutiques n'arrivent plus à vendre leur chimio.
Le seul truc pharmaceutique qui a le seul THC pharmaceutique, c'est un THC de synthèse, c'est le Sativex, mais qui n'est pas du THC à base de cannabis, c'est du THC de synthèse.
De synthèse, d'accord.
C'est le seul que Maggie.
Le Sativex n'est pas un THC de synthèse, c'est bien l'intérêt de la plante. Mais quand on laisse l'industrie pharmaceutique faire, là, le Sativex en a un excellent exemple, le Sativex est vendu l'équivalent d'environ 5000 euros le gramme. Dans un petit flacon de Sativex, il y a extrêmement peu d'extrait de chanvre. Et nous, quand on laisse faire, les Espagnols sont très forts là-dedans, où il y a des cannabis social club dans un contexte légal. Ils peuvent procurer, c'est pas exactement la même chose parce que c'est pas dans une solution alcoolique comme le Sativex, mais dans une solution houilleuse. Ils peuvent mettre à disposition de leurs membres une fiole relativement similaire avec un prix de revient testé en laboratoire de moins de 5 euros la petite bouteille. Ah, là où le Sativex est vendu des fortunes.
On en est sur le même plan que l'insuline dans le documentaire magique aussi de Philippe Borel. De trouver de l'insuline libre, c'est tellement bien breveté quand on se met aussi en danger légal d'essayer de la reproduire.
Mince. Voilà, parce que selon moi, c'est une illusion de se battre contre les industries pharmaceutiques. Elles sont beaucoup trop ancrées, financées dans le système médiatico-politique. Par contre, si le système de club a le droit d'exister, ben les gens pourront adhérer à un social club et avoir accès à ces produits de manière totalement démocratique. Et alors, moi, j'ai connu plus d'une personne qui a utilisé le Sativex, qui sont rentrés dans le club, à qui on a appris à faire leur propre extrait et qui étaient bien plus satisfaits du résultat qu'ils produisaient eux-mêmes avec la connaissance du club plutôt que de la solution toute faite du Sativex.
Mmh. Oui, mais donc, il y a un documentaire qui était passé sur Arte, le cannabis sur ordonnance, qui m'apprenait. Du haut de ma grande ignorance, que le corps humain est parcouru de toute une chaîne de ganglions cannabinophiles.
Et que c'est cannabinoïdes. Voilà, ça, si je peux éventuellement expliquer en quelques mots, c'est depuis l'oursin, donc c'est très tôt dans l'évolution, depuis l'oursin, tous les organismes vivants animaux sont dotés d'un système endocannabinoïde. Mmh. La mère qui allaite va donner via son lait, c'est en ppm, c'est des toutes petites quantités, mais va donner des endocannabinoïdes à son enfant en l'allaitant. Mmh.
C'est pour ça qu'il faut prendre du lait en poudre Nestlé. Bon. Qui ne contient pas cette drogue naturelle que votre maman donne dans son lait.
Bon, un petit jus de carotte alors, peut-être, à la place. Ça vous dit qu'on fasse une petite pause de 4 minutes 32, le temps d'écouter le super clip que vous aviez fait en l'occurrence, et ça replante le décor, dans la mesure où diaboliser une plante comme le cannabis, c'est insupportable. Mais on aurait très bien pu diaboliser d'autres petites plantes. À tout de suite. Vous êtes bien en source.
Lorsque les carottes étaient formellement interdites par la loi, si malgré tout vous vouliez en consommer, parce que vous en appréciez les vertus, vous n'aviez pas beaucoup d'options. Bon, si vous aviez la main verte, vous pouviez toujours en faire pousser vous-même. Peut-être que l'une de vos connaissances partageait ses récoltes avec vous. Vous pouvez vous en procurer. Et sinon, il vous restait la rue. Quelle que soit l'option choisie, vous preniez des risques. Car la culture, le trafic, la vente, la possession et la consommation de carottes pouvaient engendrer des sanctions pénales. Ainsi, prétextant des raisons de santé publique et de sécurité, l'État consacra à la répression de budgets colossaux. La carotte rendrait paresseux, déclencherait des psychoses, créerait des addictions et entraînerait la consommation d'autres légumes prohibés. Pourtant, si l'usage de la carotte n'est pas forcément bon pour tout le monde, connaissance de ses effets, médicinaux comme récréatifs, remonte à des milliers d'années. La prohibition des carottes eut les mêmes résultats désastreux que celle du jus de betterave aux USA quelques décennies plus tôt. Apparition de productions frelatées, de cartels, corruption, renforcement des inégalités sociales, persécution des minorités, surpopulation carcérale, marché noir foisonnant, cherchant toujours à accrocher ses clients. Devant cet échec cuisant, l'État se tourna vers ses voisins pour jeter un œil sur leurs copies et s'inspirer librement. Alors, sans froisser les monopoles en place, il se dit qu'une solution serait de mettre les carottes au même rang que le jus de betterave ou les asperges. Ça y était! On pouvait enfin se procurer légalement des carottes! Par contre, en faire pousser soi-même n'était toujours pas acceptable ni toléré. D'énormes multinationales se sont rapidement emparées de ce nouveau marché croquant. La carotte fut déclinée à toutes les sauces. Des affiches gigantesques prônaient telle ou telle nouvelle variété de telle ou telle marque. L'omniprésence de la publicité amplifia le phénomène, surtout chez les jeunes. Face aux protestations et incapables de gérer les producteurs, l'État appliqua la seule mesure qui lui semblait efficace. Obligation pour les fabricants de mentionner sur le produit qu'il était nocif pour la santé. Les taxes augmentèrent peu à peu, comme ce fut le cas pour les asperges, n'enrayant en rien la consommation et enrichissant toujours plus une poignée d'individus. Pendant ce temps, des citoyens majeurs, informés et responsables, s'étaient organisés en clubs privés, le Carotte Social Club. Basé sur la transparence, le club a pour unique but de répondre aux besoins de ses membres. Que chacun puisse accéder à des carottes biologiques de qualité, tracées de la graine jusqu'au produit fini. Des planteurs de carottes, alors souvent issus du marché noir et forts d'une grande expérience, font pousser leurs récoltes en fonction de la consommation des membres. Le profit n'est pas un objectif. Le montant du prix de la carotte est fixé par les membres entre eux, afin de répondre aux réalités de chacun. Le club permet aussi la rencontre, notamment par la mise en place d'événements réservés aux membres ou non. Entre partage et échange, le tissu social se recrée. Un peu partout fleurirent des clubs. Les plus grands comprenaient près de 400 membres, un maximum. Lorsqu'enfin l'État ouvrit les yeux sur le modèle des clubs et sur leur impact positif en termes de santé publique, ils purent se déployer. De nombreuses collaborations se mirent en place, tant pour la transformation des produits que pour la recherche pharmaceutique, que l'État décida de confier à ces universités renommées, bénéficiant ainsi des fruits de leurs découvertes. Une foule de nouveaux emplois apparurent. Les clubs purent ouvrir des comptoirs, avec des accueillants en permanence, des secrétaires, des spécialistes du contrôle de qualité, des gestionnaires logistiques et des professionnels en information et réduction des risques. Ça y était ! Carotte Social Club, Cannabis Social Club, ce n'est pas du produit dont il s'agit ici. Agissez, reprenez le contrôle, ne le laissez pas à ceux qui n'ont pas l'intérêt collectif comme objectif. Unissez-vous. Plus d'infos sur tiretonplan.be.
Eh bien, nous revoilà.
Oh, fantastique, voilà, merci Brice et Xavier.
Ouais, de nous rappeler cette belle histoire.
Oui, hein, voilà, que c'est ce coup-ci, c'est le cannabis qui est encore diabolisé. Et voilà, mais ça peut être la carotte. Enfin bon, sinon, c'est l'artémisia est aussi très diabolisée. Oui, l'absinthe a eu ça aussi, ses heures de potence.
Les champis.
Sativa.
Le LSD 25.
Les cactus.
La MDMA,
enfin. Mais. Oui.
Tout sauf l'alcool.
Voilà. Ça, ah oui, on a un petit morceau.
Ça fait partie de notre culture aussi. Quand tu parles de l'alcool, ici en Europe, et on a une culture de l'alcool. En fait, c'est notre drogue culturelle. On nous apprend à consommer de l'alcool. Je veux dire, la première fois qu'on rentre à la maison bourré, on se fait un peu engueuler, mais.
Mais on est en même temps fiers que le petit, il a déjà son premier quid.
Il y a de ça, il y a le fait que ben, quand on fait une fête, on fait péter du champomis ou du kidibule pour les enfants, donc ouais. C'est leur apprendre au moment où on fait une fête qu'il faut faire péter un truc. Enfin, donc il y a clairement un apprentissage.
Ah, la triple pied de bœuf dans une carafe au milieu de la table de la cafétéria de deuxième primaire.
Et c'est pas pour autant que la terre entière est que la Belgique entière est alcoolique non plus.
Non, seulement 90%.
Seulement une personne sur trois.
Et dites-moi, Brice et Xavier, donc par rapport à la campagne, donc on peut mettre à l'agenda vu que c'est pour le 26 juin prochain. Juin ou juin, comme on préfère que je le dise.
Je préfère.
Voilà, en tout cas aujourd'hui c'est l'appel du 18 juin. Support Don't Punish et Stop 1921. Est-ce que vous avez encore des gens parmi vos anciens 300 membres et sympathisants et. Voilà, enfin, vous pensez que c'est une action qui vaut la peine encore de retaper sur le clou ?
Oui, je pense que c'est une action qui doit continuer de se tenir tant que faire se peut. Les choses ne bougent pas d'un iota, je crois qu'il faut continuer à mettre des gens d'action. Mm-hmm. Et la dimension internationale du support dans le niche, je trouve, rajoute encore une petite couche supplémentaire au combat. Quoi. Voilà, je trouve que c'est intéressant de continuer à mener ce genre de choses. Après, quel impact réel ça peut avoir sur l'opinion publique, sur les politiques, ça je ne sais pas. Mais c'est important.
Et, mais en tout cas, voilà, je dirais que préciser, de relancer un mouvement pour remettre sur pied d'autres cannabis social clubs, ça reste une manière, effectivement, en termes de santé publique, de pouvoir...
Sauf que dans le cadre légal actuel, c'est totalement impossible. Vu qu'on est de nouveau revenu à ce truc, avant le Trek to Plant, ils ont joué sur cette faille de 2006, et là l'État a vraiment fait marche arrière. Ils ont même augmenté la prohibition, puisque maintenant c'est des familles entières de molécules qui sont interdites pour lutter contre ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse, NPS ou RC, qui sont des, en fait, j'y connais rien en chimie, mais imaginons qu'on fait du THC et que le THC est interdit par la loi parce qu'il est dans la liste des drogues. Si un chimiste s'amuse à rajouter une branche d'hydrogène et que ça donne du THHC, pendant un certain temps, ce THHC, il est légal. Okay. Et donc, c'est ça l'air, c'est profiter de ces failles. Sauf qu'on n'a pas de recul sur ces molécules-là. On ne sait pas ce qu'elles font. On ne sait pas si rajouter un truc d'hydrogène, comme on a dit, le THC, ça fait 10 000 ans qu'on le connaît, qu'on le pratique, qu'on le... Donc, on a une histoire. Alors que si on modifie la molécule, on ne connaît pas. On a vu certains cannabis de synthèse faire des ravages, des trucs vraiment où les gens ne savaient pas doser, ou les doses, ou des cannabis qui deviennent létales parce qu'on chipote un peu trop à la molécule. Tout ça pour pouvoir passer la barre de la loi et de se dire, si je modifie ma molécule, elle est légale. Donc maintenant, l'État a décidé que c'est des familles complètes de molécules qui seront interdites. Mais par exemple, c'est l'imodium qui empêche que ça...
Au niveau intestinal, oui.
C'est dans les recherches sur les opiacés qu'on l'a retrouvé. Et donc, maintenant, on ne peut plus faire ce genre de recherche puisque tous les opiacés sont interdits.
Ah, oui, donc on risque vraiment de manquer de molécules pour se soigner à un bon plan. Ou alors, effectivement, toujours continuer à boire de la bière. Parce que quand même, là, c'est bien un alcool de chez nous, comme tu disais tout à l'heure, mais le houblon, grand ingrédient de la bière, famille des cannabinacées, avec un taux de THC... suffisamment bas pour que, quand même, effectivement, on puisse abreuver des stades entiers, surtout en plein Euro 2021. Mais donc, on pourrait arriver à un moment donné à trouver des houblons un peu plus costauds, histoire que, on va fumer une bière.
Ouais. Moi, j'aurais voulu rajouter juste encore un petit mot. Je pense qu'au contraire, c'est très important à cette époque-ci de se fédérer, de se réunir, de se rassembler. De créer effectivement un maximum de cannabis social club ou club social du chanvre. Mais par contre, ce qu'il faut éviter, c'est de produire et de distribuer le chanvre. Parce que ça, effectivement, les lois et la mentalité actuelle étant dans la répression totale, c'est prendre des risques qui sont inutiles. Mais se regrouper en tant que consommateur pour défendre ses droits, pour défendre le modèle, l'autogestion, l'autoculture, c'est plus important maintenant que jamais. Et il n'y a encore rien qui nous interdit de nous rassembler.
Oui, voilà, comme il y a effectivement une internationale moraliste de l'autre côté pour nous mettre à genoux, nous faire boire ici, nous faire bouffer du cat là-bas, ou crêpes Suzette en Normandie, bien flambée. Oui, de fait, c'est cette obligation de se rassembler, parce que on va dire que notre bon vieux... Machiavel, divisé pour régner, a réussi à nous mettre individuellement à genoux avec ces 15 mois de Covid. Mais de fait, il faut se relever en masse.
Et tu disais que vous aviez aussi un lien avec le logiciel libre, bien entendu.
Ben, dans les statuts de Tire ton plan, il était bien noté qu'on était là pour défendre toutes les solutions qui permettent aux citoyens de s'émanciper, de s'autogérer. Et le logiciel libre est un outil absolument formidable qui existe, qui marche très très bien, mais dont malheureusement les gens ne s'emparent pas assez, souvent par ignorance, même si parfois l'ignorance est un choix.
Bam.
Ouais. Et paf, ouais. Et vous... Ah ouais, c'est beau. Je ne savais pas qu'il y avait un lien comme ça qui existait.
Ah, mais je le pressentais intuitivement, comme ça, une espèce de troisième œil. Mais je suis très ravi de l'entendre de la bouche de Xavier, que Il y a des installs parties.
Mais donc ça, c'est vraiment une manière de se fédérer, parce que tu disais qu'on vit dans une époque où, effectivement, se fédérer, c'est important. Même à taille minimale. Enfin, même si je veux dire...
Même à taille minimale, tout à fait. C'est vraiment l'important. Si les clubs pouvaient pousser comme des champignons ou comme des plantes de champ, à un moment donné, ça envoie un signal qu'il est important de nous respecter, parce qu'on voit souvent, on parle souvent même plus de légalisation, mais de libéralisation. Et le modèle libéral est souvent nuisible pour des problèmes de santé publique. Je prends par exemple le cas du Québec au Canada, où certes on peut aller acheter du chanvre en partie contrôlé par l'État, qui est d'ailleurs devenu beaucoup plus cher que ce que c'était du temps du marché noir. Mais malheureusement, cultiver son propre chanvre est complètement interdit et toujours réprimé. Donc c'est pour ça que c'est très important de se fédérer en club pour avoir le droit à l'autogestion, le droit à l'autoculture, parce que le club social du chanvre a toujours défendu l'idée d'autoculture également, parce que tout le monde ne peut pas cultiver, donc c'est important qu'on puisse se réunir pour cultiver, mais tous les gens qui sont capables de cultiver doivent pouvoir le faire et avoir un chanvre qui leur revient au même prix qu'un kilo de tomate, c'est-à-dire trois fois rien. Parce que le chanvre est une plante qui pousse très facilement, qui pousse très bien, et les prix sont dictés par le marché noir ou par l'industrie pharmaceutique ou par un marchand qui n'a en tête que le profit, il va se baser sur des prix maximum. Et ça, je pense que l'utilisateur n'y a strictement aucun intérêt.
Non, de fait, ça, ce sont les dérives du néolibéralisme, une fois de plus, qui vont flinguer la terre. Avec bientôt un cannabis breveté Monsanto, ce sera parfait, qui résistera.
C'est une réalité qui existe déjà depuis de très nombreuses années. Toutes ces plantes, toute l'industrie pharmaceutique, c'est pour ça que je crois qu'il est illusoire de la combattre. Il est important que les clubs existent pour pouvoir créer l'initiative, mais le marché du chanvre a déjà été verrouillé. Eux ne veulent, c'est des monopolistes, ils ne voudraient pas perdre une part de marché. C'est comme Coca-Cola qui se lance dans la stevia, c'est pour garder un maximum de parts de marché. Ce n'est pas parce qu'ils ont compris tout d'un coup que leur produit était mauvais, c'est pour ne rien perdre. Et donc l'industrie pharmaceutique a déjà toute sa filiale cannabis, chanvre, qui est prête.
Bon, ben... Il y a un site web où il y a quelque chose, où il y a moyen de...
Ah, pour ceux qui veulent en savoir plus, je ne peux que fortement recommander les textes de Dominique Guillet sur le chanvre, qui explique très très bien la manière dont l'industrie pharmaceutique veut prendre le contrôle de la plante. Il est très très pertinent. Bon, il n'est pas toujours très facile à lire parce que c'est quelqu'un de fort cultivé qui amène beaucoup de choses dans son discours, mais il est particulièrement pertinent, Dominique Guillet.
Ok.
Et on les rajoutera aussi dans les sources de l'émission.
Ouais. Et donc, en matière donc, de solidarité, de se recréer du lien, là, le programme du 26 juin...
Donc, il y a plusieurs choses qui sont mises. Donc, comme je disais, on va faire une porte ouverte dans pas mal d'ASBL. Tu as d'une ASBL qui participe, qui se trouve... près de l'Hôtel des Monnaies. Vous trouverez toutes les infos sur supportdonnepunish.be, vous avez tout le lien.
Oui, parce que là, il y a vraiment... Ouais.
Donc, participation des bénéficiaires avec exposition de travail photo, atelier de coiffure, atelier de bijoux, enregistrement de clips radio, qui est une radio menée par des usagers de drogue qui parle de sujets réduction des risques, alternative à l'injection, produits de substitution, ce genre de choses. Atelier Chipote, donc création artistique et projection de vidéos Stop 1921. Donc ça, c'est avenue Henri Jaspard 124. Voilà. Les petits riens SBL qui, eux, vont faire une sensibilisation sur support Don Pinuche auprès des clients de la rue américaine. La masse qui va faire un parcours des usagers, l'impact de la loi sur la vie des usagers, suivi d'un apéro. Ça, c'est rue Wuring, je ne sais pas du tout où c'est. Le centre d'action laïque, expo, sondage cannabis, présentation du jeu Toxicity, photo du tournage, Sauvage, Double Peine, Avenue de Stalingrad, Parentalité Addiction, CHU Saint-Pierre qui va avec le réseau Hépatite C faire des activités ludiques autour de la famille et des thématiques des droits de l'homme et de l'accès aux soins. La Trace qui fait des dégustations de boissons naturelles, plus projection de films documentaires. Modus Fiesta, donc comme je vous le disais, démonstration de testing et projection de petites vidéos sur l'impact de, l'interdiction des produits sur la consommation des gens. L'ASBL, Le Pilier, qui est un comptoir, un comptoir d'échange, qui fait expo de photos et... voilà, soit qui sont des photos qui ont été faites par les usagers du Pilier et par les professionnels. La SBL Execo qui fait un DJ set de DJ Atom et un stand d'information sur le chemsex. Le chemsex, c'est une pratique où on mélange beaucoup de drogue et beaucoup de sexe. Et Modus Vivendi à SBL qui fait du géocaching et une balade dépénale, donc balade à vélo, où on va parler de légalisation, de travail, de produits et tout ça à vélo. Et on va faire le tour des ASBL. Et tout ça se termine à l'abbaye de Forêt, donc à la buvette Abbey, avec un concert de la jungle. À partir de 17h, donc c'est de 17 à 22, 23 ou plus en fonction
des affinités
et des autorisations fédérales. Et donc il y aura moyen de boire un coup à la buvette de la Bille, il y aura la jungle en concert, il y aura DJ Acid Kamikaze qui va jouer et un certain DJ Ilia Selecta. Sans vouloir faire de
Il est chouette, j'ai déjà vu, il est pas mal.
Merci.
Eh bien, après tant de choses racontées, je vous propose de faire une petite pause juste pour prendre un peu d'air.
Oui.
Il fait chaud aussi.
De rafraîchir le tout.
Et sinon, en attendant, vous avez entendu, mais vous pouvez voir aussi le clip Super Carotte Masquée. Tapez Vimeo/, après c'est facile, il n'y a que des chiffres. 387, 617, 878. Voilà, un petit ordi, Vimeo. C'est chouette, hein, c'est pas YouTube, là, c'est de nouveau drogue dure, là, YouTube. Vimeo 387 617 818.
Il y a entre plus drogue dure et drogue douce, mais si tu veux, on en
parle. À tout de suite, Xavier Brice.
À tous.
tijd voor volksmuziek met alcohol.
C'est voilà, un petit extrait sur lequel je suis tombé tout à fait par hasard cet après-midi sur freemusicarchive.org. Et oui, ben voilà.
Et avant que tu n'enchaînes, rappelons que nous sommes dans l'émission de Source Radio Campus en deux points. Qu'autour de la table, nous avons Frédéric Thiers.
Il y a,
j'allais oublier. Nico. À distance, nous avons aussi Brice et Xavier et une personne de plus.
Qu'est-ce qu'il fait là?
Yes.
Mais que fait-il là?
Bah allez, présentez-moi quoi, je suis le bouffon de l'émission d'après ou un truc comme ça.
Ah ouais, Valérie, le bouffon de l'émission d'après. Non, je suis pas d'accord du tout.
Voilà.
Non. Bah ça va
donner bah, bonsoir.
Des cross émissions, hein. C'est ouais, Valérie voilà. De This is in the slit, de What is in the zip, non, de...
Qui est presque. Pourtant, enfin voilà, dans cet esprit-là.
Voilà. Mais vous verrez, c'est l'émission juste après.
Vous entendrez surtout.
Oui. Bah oui, ouais, non, tout à fait. Quoique, apparemment, il y aura un petit plus.
Ouais, pour après.
Ok, chouette. Ben voilà, donc nous, on a décidé de faire un spécial logiciel libre, consommation libre, la plus libre possible, parce qu'on a justement une grande journée mondiale qui se prépare, et nous avons Brice et Xavier par Internet du Cannabis Social Club Tire ton plan.
Mais pour une fois, j'ai vraiment suivi attentivement Source. Mm-hmm. Parce que d'habitude, même moins fort, vous faites pareil. Mais... oui, j'étais attentif là, cette fois-ci.
C'est quand on parle de drogue, hein, tout de suite,
ça fait du buzz.
drogue.
Il y a des neurones qui s'allument tout d'un coup.
Vous aurez entendu quand même que les drogués choisissent toujours le logiciel libre. Hein. Il y a un lien,
Ouais, bah, t'inquiète pas, bientôt on sera obligé de faire des logiciels libres, Social Club.
Voilà, il y aura des dealers de logiciels libres. Ça, c'est un concept encore plus chelou.
Ouais. Vas-y, tu peux l'avoir, c'est gratuit. Voilà,
c'est moi, j'aime bien.
Tu peux en prendre 10 si tu veux.
J'imagine déjà le dealer de. Et t'inquiète, tes données sont à toi. Elles sont personnelles. C'est la tienne. Hein. Je vais pas les revendre.
Voilà. Mais donc, dites-moi, Xavier et Brice, bon, maintenant, plus aucune possibilité de monter un cannabis social club, comme le rappelait Ilia avec la loi actuelle.
Mais pas de cultiver ni de vendre. Donc, tu peux te rassembler en tant qu'usager.
Oui.
Là, on est aussi, il y a la Fédito, donc, qui est le truc qui chapeaute toutes les assos. De toxicomanie et santé publique, qui est en train de lancer une campagne pour essayer d'avoir des groupes d'auto-support aussi. Okay. Donc, redonner la parole aux usagers. Donc, prendre la parole dans l'espace public, c'est possible, même en se mettant en Social Cannabis Club, c'est juste plus possible de cultiver et de distribuer du cannabis. Mais je pense que oui, il faut continuer à militer de plein de manières différentes. Quoi.
Et donc, c'est ce que vous faites, Xavier et Brice, enfin, quel est votre emploi du temps maintenant, entre guillemets, enfin, sans indiscrétion, hein, c'est pas ça que je cherche. Au niveau de la militance, vous en êtes où?
Malheureusement, au niveau du club, on est un petit peu, pour le moment, dans un temps mort. On doit restructurer notre association, réfléchir à l'avenir. Et donc, on a eu moins l'occasion de faire des activités. On ne participe pas directement cette année à Support Don Punish. L'année passée, par exemple, on avait fait un petit atelier où on pouvait, entre autres, amener son échantillon de chanvre et le regarder au microscope. ce qui est toujours très intéressant pour savoir, entre autres, si tout ce qu'on fume vient bien de la plante. Au microscope, on peut acheter très facilement sur Internet des petits microscopes qui viennent directement de Chine, qui coûtent une vingtaine d'euros et qui donnent des résultats très, très intéressants. Et quand on observe son chanvre au microscope, on se rend très vite compte si on a un chanvre qui est trafiqué ou pas. Si je peux donner aux auditeurs qui auraient des doutes sur la qualité de leur chanvre, un petit conseil aussi de contrôle qualité très facile, c'est on prend son chanvre quand il est bien séché, on le met sous un dictionnaire pendant une nuit entre deux mouchoirs. Si vous voyez des traces de gras ou de couleurs sur le mouchoir, mais si vous avez bien affaire à un chanvre trafiqué.
Aha.
Et alors, malheureusement, encore régulièrement, dans le chanvre qu'on achète à de mauvaises sources, on peut trouver toute une série de choses qui sont pulvérisées sur le chanvre. Et ça, un petit passage au microscope, et on voit directement la différence. On voit des choses déposées sur le chanvre, alors que quand on regarde les cristaux de THC, de CBD et tous les autres, on voit vraiment que ces cristaux sortent de la plante. Au microscope, il est d'ailleurs totalement, et au goût et à l'odeur non plus, totalement impossible de différencier un chanvre pur CBD d'un chanvre pur THC. Ça a exactement le même look.
Et tant qu'on parle d'observer ces produits, je rappelle que vous pouvez venir faire tester gratuitement et anonymement tous les vendredis de 18 à 22 heures vos produits, mais pas cannabis et champignons parce qu'il y a trop d'alcaloïdes et qu'on ne les voit pas à la machine, à Modus Fiesta qui se trouve 130 rue Van Artevelde. Et venez voir ce que vous avez dans vos produits et ce que vous allez foutre dans votre pif. C'est toujours mieux de savoir que de le mettre sans savoir.
Oui, c'est une petite anecdote comme ça de forum informatique, de quelqu'un qui poste en disant « Mais j'ai trouvé une clé USB, je l'ai mise dans mon ordinateur, sans doute Microsoft Windows, et mon ordinateur s'est planté. » Et alors, quelqu'un lui répondait dans ce même forum « Ouais, tiens, si tu trouves une seringue en rue, est-ce que tu t'injectes ?» Voilà, petite parenthèse du vendredi. Mais c'est ça, donc là...
Il espérait tomber sur des nudes.
Ouais. Et,
c'est une autre culture, hein.
Qu'est-ce que vous avez comme substance alors qui tourne en ce moment? Bon, on est un peu de coke, un peu d'héro,
Kétamine beaucoup maintenant.
Énormément de kétamine, en effet.
C'est quoi? C'est une plante?
Non, la kétamine, c'est un dissociatif du système nerveux central qui est utilisé en anesthésie humaine et en anesthésie vétérinaire. Elle est souvent vendue comme étant un anesthésiant pour cheval.
Voilà. Ah, c'est ça, ok.
Et donc, c'est extrêmement, extrêmement à la mode. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de gens prennent de la kétamine. Tout un moment, on avait des pilules qui étaient vraiment fortement dosées, c'est-à-dire des pilules avec des taux de THC qui excédaient les 250-300 mg de MDMA par pilule, ce qui est vraiment très fort. Donc, on conseille aux gens de commencer par un quart.
Ah oui.
Parce que pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Oui. Et des cocaïnes aussi, plutôt très peu coupées. Mais depuis quelques mois, ces derniers mois, vraiment la tendance est en train de redescendre. Donc on a à nouveau des produits plus coupés. Moins concentrés en substances actives.
Vivement qu'on puisse se remettre à cultiver, hein,
ouais.
Hein Brice
Mais tout à fait. Et même si pour le moment, cultiver n'est pas tellement une option sur la table à cause des risques encourus, clairement, se rassembler et essayer de s'organiser, ça reste toujours une option sur la table. Donc, aussi parmi les auditeurs, il y en a qui sont éventuellement tentés de rejoindre un club qui ne peut, pour le moment, en tout cas, pas délivrer de chanvre à ses membres, mais par contre, qui peut, tant que faire se peut, tenter de mener le combat auprès des politiques pour que les choses bougent. Ben voilà, n'hésitez pas à nous contacter, venir vers nous et on force ensemble. Voilà.
Join the club.
Ouais, join the club, tout à fait. Mais il y a une tendance, hein, je pense que, enfin, ça se voit à l'international aussi. Je pense qu'on ne coupera pas à un moment donné à une régulation du marché du chanvre chez nous en Belgique. Et je crois que ça me semble très compliqué à contourner. Le tout, c'est comment on le fait, quoi. Et voilà, moi personnellement, le modèle intégrer ça à un produit du tabac ou des magasins d'État, ça ne me va pas du rêve. Et donc, je pense que c'est le moment ou jamais de défendre un modèle citoyen de santé publique.
Ouais, c'est, ouais.
Comme le soulignait Xavier aussi, le droit à l'autoculture. En fait. C'est vrai que ça, c'est ce qui manquait un petit peu dans le court-métrage. On n'en parle pas assez du droit aussi, en tant qu'individu, à pouvoir faire pousser chez soi, si on en a le terrain, le temps, les compétences, l'envie.
Mais disons que nous, à notre petite échelle de promotion, défense du logiciel libre, en reprenant l'adage de M. Richard Stallman, nous c'est l'utilisateur qui contrôle le logiciel ou c'est le logiciel qui contrôle l'utilisateur ou l'utilisatrice, ben, on se rend compte que cette autonomie au niveau logiciel, ou elle n'intéresse pas grand monde, ou elle fait peur, hein, Ilia.
Je disais tout à l'heure, ça m'angoisse.
Voilà, donc
j'ai pas envie, ça m'angoisse.
C'est exactement la même chose du chanvre, hein.
Ouais.
Et le chanvre commercial, ce sera bien le marchand qui aura le contrôle et sur le produit et sur l'utilisateur. C'est une des raisons essentielles de se fédérer en club. Ouais, alors un petit mot que je voulais rajouter, moi,
rapidement.
C'est pourquoi est-ce que j'aime beaucoup utiliser le terme chanvre et pas le terme cannabis. C'est parce que la plante a toujours existé chez nous, a toujours été cultivée chez nous, que ce soit le chanvre psychotrope ou le chanvre textile. Mais par contre, en 1921, quand on a interdit, banni son utilisation, sa culture, il a fallu changer les mentalités. Et pour ça, le pouvoir des mots est important et on a commencé à parler de cannabis pour pouvoir instaurer toute cette propagande et toute cette diabolisation, parce que le chanvre était connu de tous les jardiniers, il était disponible dans les herboristeries.
Les oiselleries aussi. Les graines de chanvre font bien chanter les canaris.
Oui, mais les pigeons aussi, ça les fait mieux voler pour les colombophiles.
Reprendre contrôle du terme chanvre, c'est aussi pouvoir s'affranchir de la propagande autour du cannabis, parce qu'il y a un effort multigénérationnel qui a été fait depuis 1921 dans le domaine de la diabolisation, et tout ça malheureusement porte ses fruits, et jusque dans l'inconscient des gens, des liens ont été faits. Pouvoir se réapproprier le terme de chanvre, c'est pouvoir aussi en partie se défaire de tous ces liens.
C'est ça, ouais, de l'aura maléfique d'un mot latin en plus, hein, cannabis.
Mais c'est dingue, mais c'est vraiment vrai ce qu'il dit, parce que mon père justement, qui était colombophile, quand je lui ai dit qu'il donnait des graines de cannabis à ses pigeons, il ne m'a pas cru. Ça a été tout un long débat pour lui démontrer qu'en fait, c'était la même chose.
C'est le même plan, c'est le chanvre.
Mais c'est les mots, comme il dit. Ouais, c'est vrai.
Ouais, voilà. Bon, on va donner du houblon maintenant à quelques-uns de nos cannabinophiles. Merci Brice, merci Xavier.
Merci Frédéric.
Merci à vous.
Courage.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Prudent sur la route, camarade.
Ouais.
Ben oui, je suis bientôt arrivé, je suis content. Un peu de vacances en go pour moi.
Ben, bon Orval alors, hein, dans le coin. C'est une bonne houblonnée celle-là.
Et beau petit pâté au passage.
Bah, merci Thiers, merci Ilia, merci Nico, merci Valérie d'être passé.
Et tu peux annoncer l'émission suivante, hein, Manuque ?
Pour ton barbecue.
T'es grand pour faire ça ? T'es là, annonce ton émission maintenant.
Et ben, merci Brice. Dans 3 minutes, toi, t'y zip.
Ah.
Merci à vous, à samedi prochain.
Non, c'est juste WhatsApp tout court.
Oh. Ouais. À bientôt, merci. Et c'était Source, Radio Campus, 92.1.